Chapitre 6. Les nouvelles se répandent parfois dans le public aussi à l'aventure, mais aussi sûrement que le pollen emporté par les abeilles, qui s'en vont bourdonnant à la recherche de leur précieux nectar, sans se douter souvent de l'importance de leur butin. Cette jolie comparaison se rapporte à Fred Vincey, qui fut témoin, durant la soirée passée au presbytère de Lowick, d'une discussion animée entre les dames de la famille. Il s'agissait des nouvelles communiquées par Tantripp à leur vieille servante concernant le codicille ajouté par M. Casaubon à son testament peu de jours avant sa mort, et dans lequel M. Ladislaf figurait d'une si étrange manière. Miss Winifred fut renversée d'apprendre que son frère avait déjà eu connaissance du fait auparavant et remarqua à ce propos que Camden était l'homme le plus étonnant pour savoir les choses et ne pas les dire. Sur quoi Mary insinua que le codicille s'était peut-être trouvé mêlé aux mœurs des araignées, ce que Miss Winifred ne voulut jamais admettre. Mrs. Fairbrother fit observer qu'on pouvait rattacher ces nouvelles à l'unique visite que M. Ladislaf leur eut jamais faite à Lowick, et Miss Noble fit entendre de petits miaulements compatissants. Fred ne savait pas grand-chose, et s'inquiétait moins encore de Ladislaf et des Casaubon, et son esprit ne s'était jamais arrêté sur cette discussion, lorsqu'un jour, entrant chez Rosemonde, en passant pour s'acquitter d'une commission de sa mère, il vit par hasard Ladislaf qui en sortait. Fred et sa sœur avaient peu de choses à se dire, maintenant que le mariage de cette dernière l'avait mise à l'abri de tout choc avec le plus détestable des frères, et depuis qu'il avait commis cette stupidité impardonnable, suivant elle, de renoncer à l'église et d'entrer dans les affaires comme celle de M. Garth. Aussi Fred lui parlait-il de préférence de ce qu'il appelait des nouvelles indifférentes, et à propos de ce jeune Ladislaf, il lui raconta ce qu'il avait entendu dire au presbytère de Lowick. Mais il se trouva que Lydgate, comme M. Fairbrother, en savait beaucoup plus long qu'il n'en disait, et ses conjectures même étaient allées bien au-delà de la réalité. Il imagina qu'il existait là, de part et d'autre, un attachement de cœur, qu'il jugea beaucoup trop sérieux pour devenir matière à bavardage. Se rappelant aussi l'irritabilité de Will lorsqu'il lui avait parlé de Mrs. Casaubon, il se montra d'autant plus circonspect. En fin de compte, ses suppositions, ajoutées à ce qu'il savait, augmentèrent son amitié et son indulgence pour Ladislaf, et lui firent comprendre ce qui le retenait à Middlemarch après avoir annoncé son départ. Il n'avait éprouvé aucun désir de parler de ce sujet à Rosemonde. En réalité, il ne se fiait pas beaucoup à sa discrétion vis-à-vis de Ladislaf, et en cela, il ne se trompait pas, sans comprendre du tout d'ailleurs les raisons qui la faisaient parler. Lorsqu'elle répéta à Lydgate ce qu'elle avait appris par Fred, il lui dit « Prenez garde de laisser échapper la plus légère allusion devant Ladislaf, Rosie. Il est de nature à s'emporter comme si vous l'insultiez. C'est certainement une situation pénible. » Rosemonde détourna la tête et arrangea ses cheveux de l'air le plus indifférent et le plus placide. Mais la première fois que Will arriva chez elle, en l'absence de Lydgate, elle le plaisanta avec malice de ce qu'il n'était pas allé à Londres comme il les en avait menacés. « Je sais tout, j'ai un petit oiseau qui me fait ses confidences, » dit-elle, en donnant de charmantes petites attitudes à sa tête penchée sur l'ouvrage que tenaient ses doigts agiles. « Il y a un aimant puissant dans le voisinage. »«
Il y en a un, certainement. Personne ne le sait mieux que vous, » dit Will avec une pointe de plaisanterie, mais sentant l'irritation le gagner. « C'est vraiment le plus joli roman du monde. » M. Casaubon, jaloux, prévoyant que Mrs. Casaubon eût préféré à tous les autres épouseurs un certain gentleman, et que ce même gentleman eût eu de son côté le plus vif désir d'épouser Mrs. Casaubon, et faisant un plan pour empêcher tout cela, en lui confisquant sa fortune si elle épousait le jeune homme. Et puis... Oh, je ne doute pas que la fin ne soit tout à fait romanesque.
Grand Dieu ! Que voulez-vous dire ? S'écria Will, son visage se couvrant jusqu'aux oreilles d'une vive rougeur, et ses traits s'altérant comme s'il avait reçu une violente secousse. Ne plaisantez pas, dites-moi ce que vous avez appris.
Vous ne savez vraiment rien, dit Rosemonde, quittant le ton de la plaisanterie et ne demandant pas mieux que de lui tout révéler, afin de juger de l'effet produit.
Non, reprit-il impatiemment. Vous ne savez pas ce que M. Casaubon a ajouté à son testament?
que Mrs. Casaubon ne pourrait vous épouser sans perdre toutes ses propriétés ?
Comment savez-vous si c'est vrai ? S'écria Will impétueusement.
Mon frère Fred l'a entendu dire chez les Fairbrother.
Will se leva d'un bond et saisit son chapeau.
Je crois bien qu'elle vous préfère à la propriété, insinua Rosemonde, le regardant sans bouger.
N'en dites pas davantage, je vous en prie, dit Will d'un ton brusque et sourd, entièrement différent de la voix fraîche qu'il avait d'ordinaire. C'est un outrage pour elle et pour moi.
Vous voilà maintenant fâché contre moi, dit Rosemonde, et c'est très méchant de me garder rancune à moi. Vous devriez m'être reconnaissant de vous l'avoir dit.
Je le suis, dit Will brusquement, parlant avec cette sorte de seconde âme qui appartient aux rêveurs lorsqu'on les interroge.
J'espère bien un jour apprendre ce mariage, dit Rosemonde en badinant.
Jamais, vous n'apprendrez jamais ce mariage.
Et prononçant impétueusement ces mots, Will se leva, tendit la main à Rosemonde, toujours de l'air d'un somnambule, et sortit. Lorsqu'il fut parti, Rosemonde se leva, alla à l'autre bout de la pièce et, s'appuyant contre un chiffonnier, regarda mélancoliquement par la fenêtre. Elle était écrasée par l'ennui et par ce mécontentement qui, dans l'esprit des femmes, tourne sans cesse à une jalousie vulgaire, ne s'appuyant pas sur des droits réels, ne provenant pas d'une passion plus profonde que la vague exigence de l'égoïsme, et capable pourtant d'inspirer des actes aussi bien que des paroles. « Il n'y a vraiment rien qui vaille la peine qu'on s'en soucie grandement, » se dit la pauvre Rosemonde, songeant à la famille de Qualingham qui ne lui répondait pas, et pensant que Tertius lui réservait peut-être à son retour d'autres ennuis sur le chapitre des dépenses. Elle lui avait déjà secrètement désobéi, en demandant à son père de les aider. Mais celui-ci avait répondu d'un ton qui ne permettait pas de réplique « J'aurais plutôt besoin qu'on m'aidât moi-même. »
Chapitre 7. Quelques jours plus tard, on était déjà à la fin d'août, une certaine agitation régnait à Middlemarch. Le public allait être confié à acheter, sous les auspices distingués de M. Borthrop Trumbull, les meubles, livres et tableaux appartenant à Edwin Larch, Esquire, dont les annonces attestaient à tous la qualité supérieure. Ce n'était pas une de ces ventes dues à de mauvaises affaires, mais tout au contraire au grand succès des entreprises de M. Larcher, qui venait d'acquérir près de Reveston une maison seigneuriale meublée dans le style le plus élégant et allait quitter la ville. À cette époque, on considérait à Middlemarch une semblable vente un peu comme une fête. Il s'est trouvé toujours une table couverte des meilleurs comestibles froids, comme un enterrement de première classe. Et on avait toute facilité pour se laisser joyeusement aller à cette généreuse consommation de verres de vin qui peut entraîner des enchères également généreuses et joyeuses pour des objets qui ne le méritent guère. La vente de M. Larcher était d'autant plus attrayante par le beau temps que la maison, avec jardin et écurie, était située tout au bout de la ville, dans cet agréable prolongement de Middlemarch appelé « Route de Londres », qui était aussi la route du nouvel hôpital et de la demeure retirée de M. Bulstrode, qui avait nom « Les Bosquets ». Toutes les classes de la société disposant de quelques loisirs s'y donnèrent rendez-vous. Le second jour, notamment, où la meilleure partie du mobilier devait être vendue, tout le monde était là, jusqu'à M. Tessiger, le recteur de Saint-Pierre, qui fit une courte apparition, et se trouva coude à coude avec M. Bambridge et Horrocks. Tout un cercle de dames était assis en rond autour de la grande table de la salle à manger, sur laquelle M. Borthrop Trumbull était monté avec pupitre et marteau. Les rangées de figures masculines qui se tenaient au dernier plan se renouvelaient davantage. On entrait et on sortait à la fois par la porte et par un grand bow window ouvrant sur la pelouse. Ce jour-là, M. Bulstrode ne faisait pas partie de « tout le monde », sa santé ne supportant pas bien les foules ni les courants d'air. Mais comme à la vente figurait un tableau dont Mrs. Bulstrode avait particulièrement envie, un repas à Emmaüs, attribué au Guido par le catalogue, M. Bulstrode s'était présenté la veille même au bureau du pionnier, dont il était devenu un des propriétaires, pour demander à M. Ladislav, à titre de grande faveur,
de vouloir bien aider Mrs. Bulstrode de ses remarquables connaissances en fait d'art, et le prier, si possible, au milieu de ses préparatifs de départ, de disposer de quelques instants pour aller à la vente. Au moment où M. Bulstrode s'adressait à lui, Will avait à la fois la résolution bien arrêtée de partir et la résolution non moins arrêtée de ne pas partir sans revoir encore une fois Dorothée. Il répondit donc qu'ayant des raisons de différer son départ, il se ferait un plaisir de s'y rendre. Will était dans une disposition de défiance. Il avait la conscience profondément blessée par la pensée que tous ceux qui le regardaient avaient sans doute connaissance d'un fait équivalent à une accusation contre lui, et le considérait comme un être cupide dont les machinations venaient d'être heureusement déjouées. Comme tant d'hommes qui se prétendent les plus dégagés de tout préjugé en matière de distinction conventionnelle, il était susceptible et toujours prêt à s'emporter contre quiconque eût paru croire qu'il avait des raisons personnelles de s'affirmer ainsi, ou que son affectation d'indépendance n'était qu'un masque pour couvrir quelque tare dans son sang, sa personne ou son caractère. Quand il était sous l'empire d'une impression irritante comme celle-là, il était capable de s'en aller errer pendant des jours entiers, le regard ombrageux, le visage mobile, changeant de couleur à toute minute, comme s'il était sur le qui-vive, guettant un point où il pût sûrement diriger ses traits. Cette expression se fit particulièrement remarquer le jour de sa visite aux enchères, et ceux qui ne l'avaient encore vu que dans ses humeurs de douce bizarrerie ou d'éclatante gaieté eussent été frappés du contraste. Il n'était pas fâché de cette occasion de se montrer en public aux yeux de diverses classes de Middlemarch, les Tolère, Hackbutt et compagnie, qui tous le regardaient comme un aventurier, eux qui ne se doutaient seulement pas de l'existence de Dante, eux qui, de la plus basse extraction, osaient parler avec ironie de son sang polonais. Il se tenait à une place en évidence, non loin du commissaire-priseur, l'index de chaque main dans ses poches de côté, la tête rejetée en arrière, ne se souciant de parler à personne, bien qu'il eût été salué cordialement, comme un connaisseur par M. Trumbull, qui jouissait pour le moment de l'activité exceptionnelle de ses hautes facultés. M. Borthrop Trumbull avait dans les veines un liquide bienveillant. Essentiellement admirateur par nature, il eût aimé à avoir l'univers sous son marteau, sentant qu'il l'aurait, par sa recommandation, élevé à un cran plus noble. Il se contentait, en attendant, de l'ameublement de salon de Mrs. Larcher. Et animé par une direction aussi fantaisiste qu'enthousiaste, les enchères se poursuivaient avec une émulation croissante. « Allons, Trumbull, en voilà assez, avec tous les ramassis d'anticailles que vous avez fourrés dans la vente, » murmura M. Tolère en s'approchant du commissaire. « Je voudrais voir les gravures, et je vais tout à l'heure être obligé de m'en aller. » « Nous y voilà justement, Monsieur Tolère. Ici, Joseph, en avant les gravures. Article 235. Maintenant, vous, messieurs qui êtes des connaisseurs, vous allez avoir un régal. Voici une gravure représentant le duc de Wellington entouré de son état-major sur le champ de bataille de Waterloo. Et malgré certains événements récents qui ont en quelque sorte enveloppé notre grand héros d'un nuage, je me permettrai de dire... car un homme dans ma situation ne doit pas subir l'influence des courants politiques, je me permettrai de dire qu'un plus beau sujet dans l'ordre moderne, appartenant à notre temps, à notre époque, ne saurait guère être conçu par l'intelligence humaine. Par des anges, peut-être, mais point par des hommes, messieurs, point par des hommes. « Et de qui est le portrait ? » demanda M. Powderell, vivement impressionné. Quand il a exécuté ce tableau, le maître ne signait pas encore, M. Powderell. « Le peintre n'est pas connu, » répondit M. Trumbull, dont la respiration était devenue légèrement haletante sur ces derniers mots, après quoi il contracta les lèvres et regarda d'un œil fixe tout autour de lui. Puis vinrent deux gravures hollandaises, objet des convoitises de M. Tolère, et qui lui furent adjugées. On vendit encore d'autres gravures, puis quelques tableaux, et il commença à se faire un mouvement plus actif d'entrée et de sortie dans l'assistance. Les uns, ayant acheté ce qu'ils voulaient, s'en allaient, d'autres arrivaient pour la première fois sur les lieux ou revenaient d'une visite passagère au rafraîchissement préparé au milieu de la pelouse sous un kiosque. M. Bambridge avait envie d'acheter ce kiosque, et il semblait prendre plaisir à en visiter fréquemment l'intérieur, comme par un avant-goût de la possession. La dernière fois qu'il en revint, on remarqua qu'il amenait avec lui un nouveau compagnon, étranger à M. Trumbull et au reste du public, mais dont l'extérieur faisait cependant supposer qu'il était parent du maquignon et, comme lui, adonné au plaisir. Ses grands favoris, son air d'imposante crânerie et sa manière de lancer la jambe en faisaient un personnage frappant, mais son costume noir, passablement usé aux coutures, amenait cette conclusion fâcheuse qu'il ne devait pas pouvoir s'accorder autant de plaisir qu'il l'eût souhaité. « Qui avez-vous donc raccroché là, Bam ?» murmura M. Horrock. « Demandez-le-lui vous-même, » repartit M. Bambridge. « Il dit qu'il vient d'entrer ici en passant sur la route. » M. Horrock examina l'étranger, qui s'appuyait d'une main en arrière sur sa canne, tenant son cure-dent de l'autre, et regardait tout autour de lui avec une espèce d'inquiétude, provoquée apparemment par le silence que les circonstances lui imposaient. Enfin, on apporta le repas à Emmaüs, à l'immense soulagement de Will, car il commençait à être si fatigué de tout le mouvement de cette vente qu'il s'était retiré un peu à l'écart, le dos appuyé au mur, juste derrière le commissaire priseur. Au moment où il se rapprochait de la table, il aperçut le curieux étranger qui, à sa grande surprise, tenait les yeux fixés sur lui d'une façon marquée. Mais il se vit aussitôt interpellé par M. Trumbull, qui en appelait à son jugement. « Oui, M. Ladislav, oui, cela vous intéresse, en votre qualité de connaisseur, n'est-ce pas ?»« Il y a du plaisir, » continua le commissaire avec une ferveur croissante, « à pouvoir montrer un tableau comme celui-ci à une société de dames et de gentlemen, un tableau qui vaudrait n'importe quelle somme pour celui dont les moyens seraient en rapport avec les connaissances. » « C'est une peinture de l'école italienne, du célèbre Guido, le plus grand peintre du monde, le premier des anciens maîtres. Permettez-moi de vous le dire, messieurs, j'ai vu beaucoup de tableaux des anciens maîtres, et ils sont bien loin d'avoir la valeur de celui-là. Les uns sont plus sombres qu'on ne voudrait, les autres ne représentent pas des sujets de famille. Mais voici un Guido dont le cadre seul vaut plusieurs livres, et que toute lady serait fière d'avoir chez elle. Ce tableau figurerait encore avec honneur dans ce que nous appelons un réfectoire, une institution de charité, si l'un des gentlemen de la corporation était jaloux de faire preuve de munificence. Faut-il tourner de votre côté, monsieur ? Oui, Joseph, tournez-le un peu du côté de M. Ladislav. M. Ladislav a été à l'étranger, et il sait apprécier la valeur de ces œuvres-là, voyez-vous. Tous les regards se tournèrent du côté de Ladislav, qui dit froidement « 5 livres ». Le commissaire-priseur éclata en vive représentation. « Ah, monsieur Ladislav, le cadre seul les vaut. Mesdames et messieurs, pour l'honneur de la ville, supposez qu'on découvre un jour qu'un joyau de l'art s'est trouvé parmi nous, dans cette ville, et que personne à Middlemarch ne l'a reconnu. 5 et 7 shillings et 6 pence, 5 guineas et 10 shillings. Encore, mesdames, encore. C'est un joyau qu'on a laissé à un prix nominal, dira-t-on, parce que le public ne s'y connaissait pas, et parce qu'il a été présenté dans des cercles où régnaient, j'allais dire, des sentiments bas. Mais non, 6 livres, 6 guinées. Un Guido de premier ordre laissé par 6 guinées. C'est une insulte à la religion, mesdames. Cela devrait nous toucher tous, messieurs, comme chrétiens, qu'un sujet pareil fût cédé à 6 vils prix. 6 livres, 10 shillings, 7 livres. Les enchères s'étaient animées, et Will continua à y prendre part, se rappelant que Mrs. Bulstrode désirait vivement le tableau et pensant pouvoir aller jusqu'à 12 livres. Mais il lui fut adjugé pour 10 guinées, après quoi il se fraya un chemin vers le bow window et disparut. Ayant très chaud et soif, il se décida à aller sous le kiosque demander un verre d'eau. Il n'y restait plus personne et il pria la femme de service de lui chercher un peu d'eau fraîche. Mais à ce moment même, il eut l'ennui de voir revenir le florissant étranger qu'il avait dévisagé tout à l'heure. Rien que la vue du personnage louche vous donnait déjà chaud par un jour d'été. Will, à moitié assis sur le bras d'un fauteuil de jardin, évita de le regarder. Mais cette attitude ne fit pas grande impression sur M. Raffles, notre ancienne connaissance, que rien n'empêchait de s'imposer à l'attention d'autrui du moment qu'il lui convenait de le faire. Il s'avança de quelques pas, et lorsqu'il fut en face de Will, il l'interpella d'une voix forte. « Excusez, monsieur Ladislav, votre mère s'appelait-elle bien Sarah Dunkirk ?» Will, bondissant sur ses pieds, recula d'un pas en fronçant le sourcil et répondit d'un ton presque féroce « Oui, monsieur, c'était son nom. Et qu'est-ce que cela vous fait ?» Chez Will, le premier élan était toujours une réponse directe à la question à lui adressée, en même temps qu'un défi de ce qui en résulterait. Répondre tout d'abord « Qu'est-ce que cela vous fait ?» lui semblait biaisé, comme s'il se souciait des gens qui pouvaient connaître son origine. Raffles, de son côté, ne souhaitait nullement la lutte que l'air menaçant de Ladislav semblait promettre. Ce svelte jeune homme, avec son teint de jeune fille, ressemblait à un chat-tigre prêt à bondir sur lui. En de telles circonstances, le plaisir que prenait M. Raffles à tourmenter son monde faisait relâche. « Ce n'est pas pour vous offenser, mon bon monsieur, pas pour vous offenser. Seulement, je me souviens de votre mère que j'ai connue jeune fille. Mais c'est à votre père que vous ressemblez, monsieur. J'ai eu le plaisir de voir aussi votre père. Vos parents sont-ils encore en vie, monsieur Ladislav ?»« Non, » hurla Ladislav, sans changer d'attitude. « Je serais heureux de vous rendre service, monsieur Ladislav. Par Jupiter, j'en serais heureux, avec l'espoir de vous rencontrer une autre fois. » Là-dessus, Raffles, qui avait levé son chapeau en prononçant ces derniers mots, pirouetta sur lui-même et s'en alla. Will le suivit des yeux un moment et put voir qu'il ne rentrait pas dans la salle de vente, mais semblait se diriger du côté de la route. Il se demanda s'il n'avait pas eu tort, peut-être, de ne pas laisser parler cet homme davantage. Mais non, après tout, il préférait ne rien apprendre d'une pareille source. Cependant, plus tard dans la soirée, Raffles le rejoignit sur la route, et paraissant soit avoir oublié la rudesse de son précédent accueil, soit désiré s'en venger par une condescendance familière, il le salua d'un air jovial et marcha à ses côtés, faisant d'abord quelques réflexions sur l'agrément de la ville et des environs. Will, soupçonnant cet homme d'avoir un peu bu, pensait à la manière de s'en débarrasser lorsque Raffles lui dit « J'ai été moi-même à l'étranger, monsieur Ladislav. J'ai vu le monde. J'ai baragouiné un peu le français. J'ai été à Boulogne et j'y ai vu votre père. Vous lui ressemblez d'une façon frappante, par Jupiter. La bouche, le nez, les yeux, les cheveux rejetés en arrière du front, tout comme les siens, un peu à la mode étrangère. John Bull ne produit pas beaucoup d'enfants dans ce genre-là. Mais votre père était bien malade quand je l'ai vu. Seigneur, Seigneur, avec des mains si transparentes qu'on voyait au travers. Vous n'étiez alors qu'un petit garçon. S'en est-il remis ? Non, fit Will sèchement. Ah, bien, je me suis souvent demandé ce qu'était devenue votre mère. Elle s'était enfuie de chez ses parents quand elle était encore jeune fille. Une jeune fille au cœur fier et jolie par Jupiter. J'ai su pourquoi elle s'était enfuie, dit Raffles, clignotant de l'œil tout en regardant Will de travers. « Vous ne pouvez rien savoir de déshonorant sur son compte, » dit Will, se retournant vers lui d'un air presque féroce. « Pas la moindre chose, en effet. Elle était bien trop respectable, elle-même, pour estimer ses parents. Voilà tout. » Ici, Raffles clignota de nouveau lentement. « Dieu vous bénisse, je n'ignorais rien de leurs affaires. » Ils étaient un peu dans ce qu'on pourrait appeler la voie respectable du vol, une boutique de grand style. Oh, c'était de premier ordre. Un magasin où tout s'engouffrait, gros profit et point de perte. Mais, Seigneur, Sarah n'en aurait rien su. C'était une brillante jeune fille, sortant d'un pensionnat distingué, faite pour devenir la femme d'un lord. Seulement, Archie Duncan lui a jeté cette injure au visage par dépit, parce qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. Et alors, elle a planté là tout ce commerce. « J'ai voyagé pour eux, monsieur, en gentleman, avec de beaux appointements. Ils ne se sont pas préoccupés de sa fuite, tout d'abord. C'étaient des gens dévots, monsieur, très dévots, et elle était décidée à monter sur les planches. Le fils vivait encore à cette époque, et la fille était en baisse. « Voilà, nous voici au Taureau bleu. Qu'en dites-vous, monsieur Ladislav, si nous entrions boire un petit verre ?»« Non, je vous souhaite le bonsoir, » dit Will, enfilant un passage qui menait à Lowick Gate et courant presque pour s'éloigner de la portée de Raffles. Il marcha longtemps sur la route de Lowick, en dehors de la ville, et se réjouit de voir venir l'obscurité étoilée. Il lui semblait qu'on venait, au milieu des huées de mépris, de lui jeter de la boue au visage. Une chose confirmait le récit de cet individu, c'est que sa mère n'avait jamais voulu lui dire pourquoi elle avait quitté sa famille. Eh bien, à supposer sur sa famille la vérité la plus infamante, en quoi lui, Will Ladislav, avait-il personnellement moins de droit à l'estime? Sa mère avait bravé la misère pour se séparer de ses parents. Mais si les amis de Dorothée avaient connu cette histoire, si les Chatham l'apprenaient, comme ils seraient forts de leurs soupçons, et quel motif bienvenu pour eux de le trouver indigne de s'approcher de Dorothée. Mais, quels que fussent leurs injustes soupçons, il faudrait bien qu'ils finissent par reconnaître que le sang qui coulait dans ses veines était aussi pur de toute bassesse que le leur.